Parfait, bonjour tout le monde. Merci Élisée, toute l'équipe pour la première partie du culte. Franchement, on n'aurait pas pu faire mieux en termes d'introduction pour le message de ce matin. Donc merci beaucoup. Je suis très heureux, particulièrement heureux de partager la prédication de ce matin et de parler d'un personnage biblique, comme vous l'avez compris avec le culte et la série de prédications en cours, David, qui moi me parle beaucoup. Enfin, vraiment, je ne sais pas si vous avez aussi vos petits chouchous dans la Bible, des personnages qui vous reconnaissez en eux, vous trouvez qu'il y a quelque chose qui vous touche en eux. Et moi, David, il fait partie de ces personnages-là. Il me touche par son amour pour Dieu, le fait qu'il soit totalement 100% radical pour son Seigneur, le fait aussi qu'il fasse des grosses boulettes, comme moi ça m'arrive, qu'il a fait des grosses erreurs dans sa vie, et de voir que Dieu était fidèle malgré tout. Et puis de voir surtout, et on l'a déjà un peu vu, comment David, on parle de type de Jésus, un type de Christ. Dans plein de choses, là où il est né, là où son parcours, tout plein de choses nous parlent de Jésus des siècles avant la venue du Sauveur. Et il y a une série d'ailleurs qui est sortie il y a quelques semaines de ça, je ne sais pas si certains l'ont vue. Je n'arrive pas à passer la slide, merci les gars. Oups, je passe ça, désolé. Voilà, une série qui est sortie il y a quelques années qui s'appelle House of David. Je ne sais pas si certains l'ont vu, La Maison de David. Vous pouvez lever la main, ouais, je ne suis pas tout seul à regarder. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, je la recommande, comme toutes les séries, ce n'est pas toujours 100% tout à fait comme le texte le dit, mais c'est assez fidèle à l'écriture. Et cette série m'a encore confirmé à quel point ce personnage me touchait. Alors David, on a vu un peu son parcours au fil des prédications, jeune berger méprisé par sa famille, tueur de géants, chef de guerre, candidat, pas trop de son propre chef, candidat au trône d'Israël, en exil persécuté, roi bien-aimé, roi contesté par son propre fils, père globalement moyen avec ses enfants. Et aujourd'hui, on a un David, le vieux roi qui s'apprête à rejoindre son créateur et qui va passer la main à son successeur. Alors, avec les prédicateurs, quand on a préparé la série, on s'est partagé les textes. Et du coup, ce matin, j'ai deux chapitres bibliques sur lesquels on va se baser. C'est beaucoup de textes. Et j'ai fait le choix de tout de même les lire. Quasiment tout. Je vous préviens. On va beaucoup lire ce matin, mais je crois que la Bible, elle parle d'elle-même. Moi, je vais commenter, je vais partager ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Mais finalement, si déjà on avait lu le texte, je suis sûr que ça nous aurait déjà fait du bien. Donc je vous préviens, voilà, ne vous endormez pas s'il vous plaît. Alors, commençons ce passage Chroniques, chapitre 28-29. On va mettre un peu le contexte. David rassembla à Jérusalem tous les chefs d'Israël, les chefs des tribus, les chefs des divisions au service du roi, les commandants des milliers et des centaines, les administrateurs des biens et du cheptel du roi et de ses fils, les hauts fonctionnaires du palais royal, les guerriers et tous les hommes de valeur. Là, on a un rassemblement de tous les leaders, tous les responsables, certainement des centaines, des milliers de personnes qui étaient là, réunis. Dans ce contexte-là, vous imaginez, il se passe quelque chose, il y a une annonce importante qui va arriver. Le roi se met debout et leur fit ce discours. Mes frères et mon peuple, écoutez-moi. J'avais à cœur de bâtir un temple pour y faire reposer le coffre de l'Alliance de l'Éternel et le marchepied de notre Dieu. J'ai fait des préparatifs en vue de la construction. Mais Dieu m'a dit, ce n'est pas toi qui bâtiras un temple en mon honneur. Car tu es un homme de guerre et tu as fait couler le sang, comme vous le voyez à l'image. Ce n'est pas le vrai David, mais... L'Éternel, le Dieu d'Israël, m'a choisi dans ma famille pour être roi d'Israël et pour inaugurer une dynastie éternelle. En effet, c'est la tribu de Juda qu'il a choisi pour conduire les autres. Dans cette tribu, il a choisi ma famille. Et parmi tous mes frères, c'est moi qu'il a élu pour me faire régner sur tout Israël. L'Éternel m'a donné beaucoup de fils, et parmi eux tous, il a choisi Salomon pour le faire siéger sur le trône de la royauté de l'Éternel sur Israël. Puis il m'a déclaré, « C'est ton fils Salomon qui bâtira mon temple et mes parvis, car je l'ai choisi pour qu'il soit mon fils, et je serai moi-même un père pour lui. » Je maintiendrai pour toujours sa royauté s'il met son énergie comme il le fait aujourd'hui, à obéir à mes commandements et à mes lois. Je vais déjà m'arrêter sur ce bout de texte-là. Dans ce passage, David, il fait écho à plusieurs, alors textes. En tout cas, nous, aujourd'hui, c'est comme ça qu'on les a. On a des textes de la Bible. Et David, il fait écho à certains moments clés de l'histoire de son peuple, comme on l'a vu, le peuple d'Israël, les descendants de Jacob. Et on voit, il y a donc Jacob, Israël, qui a eu 12 fils. Et avant de mourir, il va bénir chacun de ses enfants. On peut lire ça dans Genèse, chapitre 49, le premier livre de la Bible. Et à un de ses fils, à Judas, il va le bénir d'une manière particulière. Il va dire ceci: « Ô toi, Judas, tes frères te rendront hommage. Ta main fera ployer la nuque de tes ennemis, et les fils de ton père se prosterneront devant toi. » Oui, Judas est un jeune lion. Mon fils, tu reviens de la chasse et tu t'es accroupi, couché comme un lion, comme une lionne qui te ferait lever. Bon, c'est de la poésie hébraïque. Là, le point qui nous intéresse. Le sceptre ne s'écartera pas de Judas, et l'insigne de chef ne sera pas ôté entre ses pieds, jusqu'à la venue de celui auquel ils appartiennent, et à qui tous les peuples rendront obéissance. Et David, c'est donc le descendant de ce Judas. Et effectivement, Dieu a tenu sa promesse. La royauté d'Israël revient à la tribu de Judas par la famille de David, comme il l'a bien détaillé. Je fais une première petite remarque, c'est que je suis toujours étonné et touché par notre Dieu qui nous fait des promesses et qui les tient. On a un Dieu qui, le créateur de l'univers, qui a beaucoup de choses certainement à penser. Il est présent avec nous, il s'intéresse à nos vies, il nous parle et il accomplit sa parole. Et une promesse qui est intéressante, c'est que c'est un engagement unilatéral de Dieu. Dieu dit: je suis généreux, je suis bon, donc je te donne gratuitement. Quoi qu'il arrive, quelles que soient les circonstances, quelles que soient tes erreurs, quels que soient les plans humains peut-être qui pourraient sembler contradictoires à ça, je pense à l'histoire de Joseph, si Dieu fait une promesse, il la tiendra, quoi qu'il arrive. Et je crois que nous sommes tous concernés par des promesses de Dieu. Dans sa parole, Dieu fait des promesses. Il promet sa présence avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, sa fidélité, on l'a chanté, sa provision, on l'a prié, comme le psaume 23 nous l'indique, il est notre berger. Ces promesses, je crois qu'on doit les chérir et nous rappeler qu'elles ne dépendent pas tant de nous, elles dépendent de lui. Et je crois aussi qu'il est possible que Dieu nous parle à nous, qu'il nous donne des promesses peut-être plus personnelles, des rêves, des projets, on reçoit ça comme une promesse de Dieu, des promesses concernant nos familles peut-être. Et simplement, mon premier encouragement ce matin, c'est à nous rappeler que Dieu tient ses promesses quoi qu'il arrive. Quand vous regardez l'histoire du peuple d'Israël, il y aurait mille et une raisons pour que Dieu ne tienne pas ses promesses si ça dépendait du peuple d'Israël. Et quand je regarde ma vie, il y aurait mille et une raisons que Dieu ne tienne pas ses promesses. Quand je regarde ma vie, mes erreurs, mon parcours, et pourtant il tient ses promesses. Et dans la Bible, il y a une deuxième notion, il y a la notion de promesse, et une autre notion, c'est la notion d'alliance. Le Seigneur tient ses promesses. Et Dieu fait aussi des alliances avec différents personnages. On voit aussi dans cette généalogie, à différents moments, Dieu se révèle à des humains, il leur parle, et l'alliance, la différence avec la promesse, c'est qu'elle est bilatérale. Ça va des deux côtés. Dieu dit, si tu respectes ta part, je respecterai la mienne. Dans tous les cas, Dieu respectera la sienne si nous respectons la nôtre. Dieu tient son alliance, mais nous, souvent, l'histoire biblique nous montre que nous ne la tenons pas souvent. Et David, il fait écho aussi à une alliance qui a été faite entre sa maison et l'Éternel. Et il y a un passage en particulier, c'est 2 Samuel chapitre 7, auquel David fait écho. Et voici ce que ce passage dit. L'Éternel t'annonce, il parle à David, qu'il te constituera une dynastie. Quand le moment sera venu pour toi de rejoindre tes ancêtres décédés, ce moment approche, j'établirai après toi l'un de tes propres descendants pour te succéder comme roi, et j'affermirai son autorité royale. C'est lui qui construira un temple en mon honneur, et je maintiendrai à toujours son trône royal. Je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je me servirai d'homme pour le corriger, par des coups et des châtiments, mais je ne lui retirerai jamais ma faveur, comme je l'ai retirée à Saül, que j'ai écarté pour te faire place. Oui, je rendrai stable pour toujours ta dynastie et ta royauté, et ton trône sera inébranlable à perpétuité. Ce texte, moi, j'ai des questions, parce qu'il me fait penser à une personne, et ça ne correspond pas tout à fait. Il me fait penser à d'autres personnes, et ça ne correspond pas tout à fait. Je ne sais pas si certains voient où je veux en venir. D'un côté, on parle d'un roi éternel qui construira un temple, voilà, une dynastie qui ne s'arrêtera jamais. Il sera Dieu sera un père pour lui. Et en même temps, on parle de quelqu'un qu'on aura besoin de corriger par des hommes, par des châtiments. Quand on regarde la suite de l'histoire, je crois que la réponse, on peut la comprendre. La suite de l'histoire, directement, quand on regarde les descendants de David, on a donc Salomon. À ce moment-là de l'histoire, ça se passe très bien. Je dis, si Salomon continue comme ça, ça va bien se passer. Malheureusement, je vous spoil la suite de l'histoire, ça ne va pas bien se passer. En tout cas, sur la fin de sa vie, Salomon va se détourner de l'Éternel, aller vers d'autres dieux, et notamment détourné par son mauvais penchant qui était les femmes étrangères. À l'époque, c'était un péché, c'était contre la loi de Dieu de se marier avec des femmes étrangères. Ça va se perpétrer de génération en génération. Les descendants des rois vont être plus ou moins bons, la plupart très mauvais. Certains vont redresser un peu la barre, mais globalement, très mauvais. Et Dieu va envoyer des prophètes. Les prophètes vont dire, en fait, cette alliance, Dieu va la tenir quand même. Ses promesses, Dieu va tenir ses promesses, il va envoyer le fils de David, ou le fils d'Isaïe, le Messie, un nouveau David qui va arriver. Et c'est intéressant parce que quand on arrive dans le Nouveau Testament, on lit les évangiles et ça commence, deux évangiles en tout cas, Matthieu et Luc nous présentent une généalogie qui inclut David. On pourrait se dire, et je ne sais pas vous, on l'a remarqué, mais quand on lit les généalogies dans la Bible, des fois on se dit, pourquoi tous ces noms, pourquoi toute cette longue liste? Moi ça me parle finalement, je m'en fous, parce que ça rend tangible la chose. On voit la chaîne de transmission. Et il soulignerait un peu après la suite. On arrive donc à Jésus, le fils de David, le fils de Dieu même, c'est comme ça qu'il est présenté. D'ailleurs, un de ses disciples, une des premières personnes qui a suivi Jésus, va voir Jésus, va lui dire, tu es le roi d'Israël, le fils de Dieu. Il va connecter ces deux idées-là. Et en fait, c'est aussi dans son idée, c'est, en fait, la notion de fils de Dieu, c'est une façon de dire, tu es l'héritier des rois, des descendants de David. Tous les rois d'Israël, on les considérait comme adoptés par Dieu. Dieu disait, j'adopte le roi comme mon fils. Il y a un commentateur de cette notion, un théologien disait, en fait, le fils de Dieu, c'est le monarque davidique, donc c'est le descendant de David, qui règne comme son père céleste. Et Jésus, on l'appelle comme ça, c'est le roi d'Israël. Jésus, quand on le voit dans le Nouveau Testament, c'est l'accomplissement du plan divin, des Écritures, l'accomplissement des promesses faites à David, faites aussi au peuple par les prophètes. C'est effectivement, comme on l'a chanté, rappelé, c'est celui dont le règne n'a pas de fin. L'héritier légitime du trône d'Israël, mais nous croyons aussi surtout celui qui règne sur l'univers entier. Celui qui a été crucifié comme le roi des Juifs, mais en même temps qui était le sauveur de toutes les nations. Le roi qui nous donne accès à son royaume, qui est le royaume de Dieu, un royaume éternel. Et comme, je ne sais pas vous, mais moi parfois cette notion de royaume de Dieu, et de dire Jésus c'est mon roi, elle peut être un peu abstraite. Je veux dire par là, on dit quelque chose, ça s'est passé il y a longtemps. Jésus, je ne le vois pas, je ne le touche pas. Il y a quelque chose de difficilement, c'est difficilement tangible. Bien évidemment, le Saint-Esprit nous permet de pleinement vivre tout ça. Mais il y a quelque chose c'est difficilement tangible. Et je me rends compte que ces généalogies-là, elles me font réaliser à quel point il y a une continuité. Parce que moi, je crois que la généalogie ne s'arrête pas là. On arrive à Jésus, et Jésus, à part certaines théories farfelues qui ont voulu écrire des bouquins là-dessus, n'a pas eu d'enfant. Il a eu des disciples. Et il a dit à ses disciples de se multiplier, comme dans Genèse 1, quand il a dit à l'humanité de se multiplier. Et d'ailleurs, dans l'Apocalypse, le peuple de Dieu, le peuple de tous ceux qui croient en Jésus, sont appelés un peuple de rois et de prêtres. Et je crois qu'aujourd'hui, nous sommes, je vous fais un partage, nous sommes les héritiers de cette lignée. En tout cas, celle de Jésus. Je dis à personne de venir revendiquer un trône nulle part. Hein. Ce n'est pas ce que je suis en train de vous dire. Je dis juste que, en fait, c'est réel. Tout ça, ça vient jusqu'à nous. Aujourd'hui, on est réunis à Vendeuvre. On fait partie de ça. Du grand plan éternel de Dieu de se créer un peuple pour l'adorer, pour l'aimer, pour qu'il soit notre roi. Il nous a laissé sa loi, aime ton prochain comme toi-même, beaucoup plus petit que le code pénal ou n'importe quel autre code français, sa constitution, la parole de Dieu,
Il nous a surtout fait une promesse. C'est que ce royaume peut être aujourd'hui visible, invisible, déjà là, mais pas encore tout à fait là, un jour, il sera vraiment là. On pourra peut-être le toucher, le voir. Il sera avec nous pour l'éternité. Merveilleux. Et comme j'ai dit, une alliance, il y a deux côtés. Et David va parler de certaines conditions à l'alliance. Voilà ce qu'il nous dit. En présence de tout Israël, de l'Assemblée de l'Éternel, en présence de notre Dieu qui vous entend, je vous conjure d'obéir à tous les commandements de l'Éternel, votre Dieu, et de chercher à les connaître. Alors, vous posséderez ce beau pays et vous le transmettrez en héritage à vos descendants à perpétuité. David, il encourage la communauté d'Israël. Il dit en tant que communauté, connaissez et obéissez à tous les commandements. Ça fait peut-être écho à un texte, enseignez-leur et à mettre en pratique les commandements que je vous ai donnés. C'est Jésus qui dit ça à ses disciples. Je m'autorise une petite transposition à nous aujourd'hui, parce que, comme je l'ai dit, on est les héritiers, nous sommes la continuité de ce peuple et de cette promesse. Je crois que le rôle de l'Église principale, c'est ça. Nous permettre de connaître et d'obéir aux commandements du Seigneur. Et dans le Nouveau Testament, je ne sais pas si vous savez le nombre de commandements qui se disent les uns les autres. C'est-à-dire quelque chose qu'on ne peut pas faire tout seul. Je n'ai pas le nombre exact, je n'ai pas recensé, on l'avait fait avec le groupe de jeunes il y a quelques mois de ça, mais c'est énorme. En fait, la plupart des choses qu'on doit vivre, que le Seigneur demande de vivre, on peut les vivre que quand on est ensemble. Et je me rends compte que parfois, et là je parle même pour moi, hein, on peut être un peu influencé par notre société plutôt qu'une société de consommation, où je vais me dire, en fait, l'Église, les questions que je vais me poser, c'est est-ce que la louange, c'est vraiment le style qui me convient ? Est-ce que la façon de l'enseignement est faite, est-ce que vraiment c'est ce qu'il me faut ? Est-ce que la technique est correctement installée ? Personnellement, c'est plus vraiment pensé comme ça. Et je ne dis pas que c'est mal, hein. Je pense qu'il faut quand même trouver un endroit où on est bien, où on se sent bien, à tous les niveaux. Mais je pense que les questions qu'on devrait se poser en tant que communauté, c'est comment on peut obéir, par exemple, à ces commandements. Aimez-vous les uns les autres. Accueillez-vous les uns les autres. Ne vous jugez pas les uns les autres. Exhortez-vous les uns les autres. Encouragez-vous, instruisez-vous, avertissez-vous, confessez vos péchés les uns aux autres, priez les uns pour les autres, servez-vous les uns les autres, soumettez-vous les uns aux autres, lavez-vous les pieds les uns aux autres, portez vos fardeaux, usez d'hospitalité. Et je ne dis pas ça pour mettre comme un « on n'est pas assez bon ». Je crois qu'au contraire, l'Église de Vendeuvre, on a la grâce de vivre beaucoup de ces choses-là et que c'est déjà ce qu'on veut. C'est plus un encouragement, dit « continuons ». Dans cette lancée. Continuons à toujours chercher, pas comment perpétuer quelque chose, mais comment on peut mieux vivre les commandements du Seigneur. Et ce que je trouve intéressant, c'est que David, il nous dit, alors vous posséderez ce beau pays et vous le transmettrez en héritage à vos descendants à perpétuité. Je suis convaincu d'une chose, c'est que quand une communauté se met à vivre les enseignements du Seigneur pleinement, ça donne envie à ceux qui grandissent dans cette communauté de faire de même. Parce qu'ils vont voir les fruits, ils vont voir les bienfaits de connaître Dieu et de lui obéir. Et puis, il y a une deuxième composante, c'est la composante individuelle. Après avoir parlé à tout le peuple, David y parle à son fils Salomon. « Quant à toi, Salomon, mon fils, apprends à bien connaître le Dieu de ton père et adore-le d'un cœur sans partage et d'un esprit bien disposé. Car l'Éternel regarde jusqu'au fond des cœurs et il discerne toutes les intentions. » Si tu t'attaches à lui, il interviendra en ta faveur. Mais si tu te détournes de lui, il te rejettera pour toujours. Considère maintenant que l'Éternel t'a choisi pour lui construire un édifice qui serve de sanctuaire. Prends courage et au travail. Et c'est intéressant, quand je lis ça, c'est que j'entends dans ce qu'il dit à son fils des échos de l'histoire de Salomon, en fait. L'Éternel regarde au fond des cœurs. Je me souviens de Samuel qui disait « L'Éternel ne regarde pas à l'apparence, il regarde au cœur. » Samuel, c'est le prophète qui a oint David comme roi. Il nous parle de l'adorer d'un cœur sans partage et d'un esprit bien disposé. Je pense à un psaume que David a écrit où après un péché qu'il avait commis, il prie le Seigneur à dire « Renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Et ce qui est intéressant, c'est que David, il dit à son fils qu'il partage, c'est basé sur son vécu, c'est son expérience. Et on va voir après, David, il ne cache pas
sa vie telle qu'elle a été. David, c'est un homme, comme je l'ai dit, qui était imparfait. Il a commis des erreurs, pour ne pas dire des atrocités, par certains moments. Il a osé le partager. Et c'est un homme surtout qui a transmis son amour, sa connaissance de son Dieu. Et puis il y a cette mise en garde qui peut nous sembler basique. Ne te détourne pas de Dieu. David, globalement, sur sa vie, on pourrait dire qu'il ne s'est jamais détourné de Dieu. Il y a des moments où ça a été compliqué, il s'est éloigné, il s'est perdu, mais il est toujours revenu. Mais quand j'ai lu ça, ça m'a fait penser à une question qu'on m'a posée en tout début d'année. On avait un temps de retraite avec les équipiers de l'association où je travaille, une association chrétienne. Et quelqu'un, la personne avec qui j'ai échangé à ce sujet, il m'a dit « J'aimerais que tu te poses une question, elle est un peu bizarre. Si tu étais le diable, bizarre, qu'est-ce que tu ferais pour te détourner de Dieu ?» Toi qui, on est censé bien se connaître. Qu'est-ce que tu ferais ? Par quelle voie tu passerais ? Ce qui est dommage, c'est que Salomon, il avait le même problème que son papa, c'était les femmes. Et il s'est peut-être pas suffisamment préparé à ce que ce soit par là qu'il se fasse avoir et qu'il finisse par se détourner de Dieu. Moi, je me suis posé la question, je crois savoir, peut-être pas tout, mais plusieurs moyens par lesquels le diable pourrait venir essayer de me détourner de mon sauveur, même temporairement. Je vous le partage, hein, je sais qu'on est en famille ici. Moi, ce serait mon ego. Piquer mon ego. Soit me dire t'es trop fort, t'as pas besoin de Dieu, soit me dire t'es trop nul. Dieu, il peut rien faire avec toi. Je sais pas vous, mais je vous encourage à vous poser la question. Voilà. Les exigences pour l'individu, connaître Dieu et l'adorer sans partage. Et peut-être savoir aussi c'est quoi les choses qui pourraient nous éloigner de notre Dieu. Mais je me rappelle aussi le chant qu'on a chanté juste avant. Il nous gardera. Et ça, je crois que c'est ce qu'on peut surtout se rappeler, c'est que le Seigneur est fidèle, même quand on se plante. Ensuite, la transition, elle va être réussie par plusieurs canaux. David, il va vraiment investir son temps, son énergie, même son argent, pour que la transition avec son fils se passe bien. Alors là, c'est là que je vais vous épargner des longues lectures de levée de fonds. David fait une grande levée de fonds en disant « Mon fils, il a besoin de sous pour construire le temple. C'est lui qui a cette mission-là. » David va préciser tout ce qu'il a ramené, tout le matériel qu'il a emmagasiné. Donc, il y a une longue liste de choses qui ont été emmagasinées. Moi, ce que je note, c'est que pour une transition réussie, David, il s'est investi, il a été prévenant. Il a anticipé. Il a pris au sérieux la parole de Dieu. Quand Dieu lui a dit, c'est pas toi qui vas le faire, il ne s'est pas dit, ok, c'est pas moi, tant pis. Il s'est dit, non, si c'est mon fils, je vais faire tout ce que je peux pour que quand ce soit lui, il soit prêt. Je parlais de promesses tout à l'heure, il y a peut-être des promesses qu'on a reçues qui ne sont pas pour nous directement, mais peut-être pour quelqu'un de notre famille, et comment on fait pour contribuer par la grâce de Dieu à ce qu'il veut faire. Donc David soutient par ses ressources. Il anticipe. Moi, ce qui m'a touché, c'est David qui soutient son fils par ses mots. Voilà ce qu'un père dit à son fils. Mon fils, donc il s'adresse à lui plusieurs fois dans ces deux chapitres, mon fils, prends courage, tiens bon, et encore une fois, mets-toi au travail. Ne crains rien et ne te laisse pas effrayer, car l'Éternel, Dieu, mon Dieu, sera avec toi. Il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas, jusqu'à ce que tu aies achevé tout le travail effectué pour le temple de l'Éternel. Je repense aussi à ce que David disait juste avant. David, je trouve, il fait deux choses qu'on a du mal à faire souvent en même temps. Je ne sais pas vous. Il y a des gens, on est plutôt bon à encourager, à dire ce qui va bien. Salomon, tu es brillant, tu vas y arriver, Dieu est avec toi. Voilà, tu vas y arriver, c'est bien. Et c'est important. Mais des fois, on fait que ça. Et on oublie la partie... Ah, et attention, ne te détourne pas. Il y a des dangers. Tu es peut-être en danger. Peut-être tu vois ça en toi, fais gaffe. Je parlais avec un ami à moi cette semaine qui passait par là, il me disait avec ses enfants, tous les ans, ils prennent un temps où ils donnent des. Voilà, ils célèbrent leur famille, ils prennent un temps ensemble, et puis ils donnent des médailles à leurs enfants. Et quand ils donnent ces médailles-là, ils leur disent, je vois ça en toi de bien. Continue, c'est bien. Mais je vois ça en toi,
faut que tu corriges ça. Et on va t'aider. Je crois que dans nos familles, j'ai oublié de le préciser, mais là je parle de passation. Peut-être que vous dites, mais moi je ne suis pas roi d'Israël et je n'ai pas un successeur à former. Mais je crois qu'on a tous des successions dans nos vies. Les parents transmettent à leurs enfants. On est responsable d'une activité, peut-être dans l'église ou ailleurs, on le transmet à quelqu'un d'autre. On est le mentor, on est le modèle de quelqu'un. Et tous, on s'influence les uns les autres. Donc, ce que je dis là, je crois que c'est valable pour nos vies aussi. Et je nous encourage à ne pas sous-estimer la portée de nos mots. Moi, je pense à des gens, et encore une fois, des parents, des responsables, des personnes que je prenais comme des modèles, qui, en une phrase, ont pu impacter ma vie. Il y a des phrases, ce n'est pas vous, qui me restent à vie. Ça m'a marqué ce qu'on a dit sur moi. En positif, parfois, on a dit, Guillaume, je vois ça en toi, moi, je ne l'avais pas vu à ce moment-là. Après, ça m'a permis de me mettre en action. Puis des fois, des phrases qui m'ont plutôt cassé. Par une personne certainement bien intentionnée, qui ne voulait pas me faire de mal, mais qui n'a pas su discerner que là, cette phrase allait me faire du mal. Je pense qu'on a tous ces expériences-là. Et c'est un petit rappel simple de dire, demandons la grâce au Seigneur pour qu'il nous aide à bien choisir nos mots auprès de nos enfants, de nos amis, des gens de nos responsables et des gens à qui nous sommes responsables. De qui nous sommes les responsables. Alors, je parlais ensuite. David soutient par son réseau. Là, il a réuni tous les responsables. Et donc, comme je le disais, il fait une grande levée de fonds. Il dit, apportez tous vos trésors, tout ce que vous avez, apportez-les pour qu'on puisse mettre en œuvre le chantier avec mon fils, pour mon fils. Pas forcément trop développé, je vois le temps qui tourne. Mais surtout, je crois que ce que David va transmettre à son fils, c'est à quel point, en fait, c'est Dieu, son appui et son soutien. Ah oui, c'est ça que je passe. Voilà. En fait, ton grand soutien, Salomon, pour réussir ta mission, c'est pas que tu es brillant, c'est pas seulement que Dieu t'ait choisi. Dieu, il avait choisi Saül. Enfin, le peuple l'avait poussé à choisir en tout cas un roi. Et malheureusement, c'est pas pour autant que ça a marché. Ce qui va marcher, c'est Dieu. Et il va faire une magnifique prière, peut-être qui va nous paraître longue. Je ne vais même pas forcément la commenter, je vous propose juste de la lire et de la recevoir, peut-être de vous l'approprier le plus possible. David bénit l'Éternel devant toute l'assemblée en disant « Béni sois-tu à tout jamais, ô Éternel, Dieu de notre ancêtre Israël. À toi, Éternel, appartiennent la grandeur, la puissance et la magnificence et la gloire et la majesté. Car tout ce qui est dans le ciel et sur la terre est à toi, Éternel. C'est à toi qu'appartient le règne. Tu es le souverain au-dessus de tout être. Et c'est de toi que viennent la richesse et la gloire. Tu domines sur tout, et dans ta main réside la force et la puissance. Tu détiens le pouvoir d'élever qui tu veux et de le rendre fort. C'est pourquoi, notre Dieu, nous te louons et nous célébrons ta gloire. Car qui donc suis-je ? Et qui donc est mon peuple pour avoir les moyens de t'offrir de tels dons? Tout cela vient de toi, et c'est de ta main même que nous avons reçu ce que nous te donnons. Nous sommes devant toi comme des étrangers, des hôtes, tout comme nos ancêtres. Notre vie sur la terre est aussi éphémère qu'une ombre passagère qui passe sans espoir. Éternel, notre Dieu, c'est de ta main que vient toute cette fortune que nous venons de réunir pour te bâtir un temple qui portera ton nom. Toi qui es saint. Tout cela t'appartient. Je le sais, ô mon Dieu, tu sondes notre cœur et tu as du plaisir lorsque quelqu'un est droit. Eh bien, c'est d'un cœur droit que je t'ai apporté tous ces dons volontaires. Et j'ai vu avec joie ton peuple ici présent t'apporter ces dons volontaires. Ô Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, nos pères, conserve pour toujours dans le cœur de ton peuple ces dispositions, ces pensées, et maintient fermement leur cœur tourné vers toi. À mon fils Salomon, donne un cœur sans partage, afin qu'il obéisse à tes commandements, tes ordonnances et tes lois, et les applique tous, et qu'il bâtisse le palais en vue duquel j'ai fait tous ces préparatifs. Là-dessus, David dit à toute l'assemblée, « Bénissez l'Éternel, votre Dieu !» Alors toute l'assemblée loua l'Éternel, le Dieu de ses ancêtres. Ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant l'Éternel et devant le roi. Le lendemain, ils offrirent des sacrifices et des holocaustes à l'Éternel. 1000 taureaux, 1000 béliers et 1000 agneaux. accompagnés des offrandes de vin requises. Ils offrirent un grand nombre de sacrifices pour tout Israël. Ils mangèrent et burent ce jour-là devant l'Éternel, tant de grande réjouissance. On arrive vraiment à la passation. Mais David a rappelé, voilà d'où l'on vient, voilà comment Dieu a été fidèle jusque-là. Et je crois que quand on voit cette généalogie, ça doit nous rappeler ça aussi. Moi, quand je lis nos ancêtres, des fois, je me permets de me l'approprier. Dans la foi, Abraham, le père des croyants, est mon ancêtre. Tout cela, ce sont nos ancêtres. Rappelons-nous comment Dieu est fidèle. Salomon est roi. Pour la seconde fois, ils proclamèrent roi Salomon, fils de David, et lui conférèrent l'onction au nom de l'Éternel pour être leur chef. Ils établirent aussi par l'onction Tsadok comme prêtre. Salomon prit place sur le trône de l'Éternel pour régner à la place de son père David. Il l'occupa avec succès et tout Israël lui obéit. Tous les chefs et les soldats et même tous les fils du roi David se soumirent à lui, ce qui n'était pas gagné quelques années auparavant, il y avait des révoltes parmi les enfants de David. L'Éternel éleva au plus haut point le prestige de Salomon aux yeux de tout Israël et il rendit son règne plus éclatant que celui de tous ses prédécesseurs comme roi sur Israël. J'ai parlé de l'investissement de David pour transmettre à Salomon. Je vous partage une façon que j'ai de voir un peu l'Église avec un grand E et l'Église locale. Moi, ça me parle cette image dans l'Ancien Testament. Il y avait un peuple, le peuple d'Israël, puis ce peuple était réparti en tribus, la tribu de Juda, il y a les 12 tribus. Et moi, j'ai l'impression qu'on est un peu comme ça, alors peut-être surtout les églises évangéliques, particulièrement. C'est-à-dire qu'on fait partie d'un grand tout, le peuple de Dieu, avec plein de communautés, plein de gens, peut-être qu'on ne connaît pas d'ailleurs, qui font partie, qui sont les enfants de Dieu. Puis on a des tribus. Nous, on est un peu comme une tribu, finalement. On se retrouve, on fait la vie ensemble, on a des responsables, des anciens. Bon, là, David, il est roi du peuple tout entier. Bon, nous, on n'a pas de pape, par exemple. Mais on a des responsables dans l'Église. On a des gens en responsabilité. Et parmi les jeunes, parmi les enfants de notre communauté, certains vont partir, certains vont rester. Mais la question que je me pose, c'est comment on va investir en eux? Peut-être des jeunes qui vont arriver. Mais comment on va laisser la place à des Salomons qui vont arriver? Alors, pas, il n'y en a pas de roi dans l'Église. Hein. Jean-Haut, notre pasteur, n'est pas notre roi. Mais c'est notre berger, comme David était berger. Comment on va investir nos mots, nos encouragements et nos mises en garde, nos ressources, nos prières pour la prochaine génération? C'est une question que je nous pose peut-être individuellement, mais aussi en Église. Comment on peut leur laisser la place aussi? Et puis David, un héritage éternel, un départ réussi. On arrive, c'est la dernière lecture. David, fils d'Isaïe, avait régné sur tout Israël. Il avait régné 40 ans sur Israël, 7 ans à Hébron et 33 ans à Jérusalem. Il mourut au terme d'une heureuse vieillesse, rassasié de jours, de richesse et de gloire. Son fils Salomon lui succéda sur le trône. Les faits et gestes du roi David, des premiers aux derniers, sont cités dans les annales du prophète Samuel, dans les annales du prophète Nathan, dans les annales du prophète Gad, et on y raconte tout son règne, sa puissance et tout ce qui lui est arrivé, ainsi qu'à Israël et à tous les royaumes de la région. Je l'ai déjà mentionné, mais quand vous lisez ces annales, ces histoires, vous verrez l'histoire de David. Pas le super, là on termine heureux, rassasié de jours, amen. Mais on voit aussi le David qui s'est planté. Ses erreurs, ses réussites, ses échecs, ses épreuves, les promesses qu'il a reçues qui se sont accomplies. Et je voudrais terminer en nous encourageant à partager ça aussi, à d'autres. Comment on raconte notre histoire? Comment on partage? Et je nous encourage peut-être à oser la vulnérabilité dans nos échanges, dans notre Église. Parle pas juste « ça va ?» Oui, ça va. Ça va vraiment? Comment tu vas? Et qu'on puisse oser aussi partager à d'autres. En fait, là, j'ai traversé ça. Peut-être des fois, c'est pas le moment de parler quand on est dedans. Mais après, oser dire « j'ai traversé ça », comme on le fait dans notre culte de témoignage, par exemple. Le Seigneur était là, il a été fidèle. Je me suis planté, Dieu m'a racheté, Dieu m'a sauvé. Comme dans les psaumes, on peut lire ça souvent. Et puis ce qui m'intéresse avec David, c'est que son héritage, il est tangible. Aujourd'hui, on a l'histoire de David dans des livres accessibles, ce qui est assez c'est fou. Comment on peut rendre tangible notre héritage, notre transmission? On ne va peut-être pas tous écrire un livre, nos mémoires avec notre visage sur la couverture. Mais je nous encourage à réfléchir, parce que tout ce qu'on a, on n'a pas besoin d'être un super-héros pour transmettre, en fait. Un David qui s'est planté plein de fois a pu transmettre des bonnes choses et des mises en garde. Fais comme moi, fais pas comme moi. Et peut-être j'encourage, alors je pense que la transmission elle se fait dans tous les sens, mais traditionnellement on va encourager les jeunes à dire bah, soyez curieux, allez voir les plus anciens, ceux qui sont peut-être là depuis plus longtemps. Et les anciens, peut-être soyez disponibles pour que des jeunes puissent vous poser des questions, mais peut-être on pourrait aussi dire l'inverse. Si les anciens étaient curieux de ce que vivent les jeunes, et si les jeunes étaient disponibles pour prendre un café avec les anciens. Je fais deux catégories, vous avez compris, vous vous êtes dit, je suis ni jeune ni ancien. Peu importe, on peut tous partager. Je terminerai juste en disant que l'héritage de David ultime, en fait, c'est son descendant, c'est Jésus. David, il a joué son rôle dans un grand plan. Il a fait ce qu'il a pu, il s'est planté, il a réussi. Dieu s'est servi de ça. Juste nous rappeler encore ça. Dieu, il a un plan, son plan s'accomplit et il est fidèle. Je termine en priant. Seigneur, merci pour...